cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 13 mai 1987.
Ceci implique le génétique. Quand je dis le toucher, je l'oppose à la vision. Normalement, le toucher est avant la vision. Du reste, quand on voit un gosse, c'est très net. Parce que pour vous, pour chacun d'entre nous, nous avons un sens plus éveillé que l'autre. Pour les uns, c'est le toucher. Pour d'autres, c'est la vision. Pour d'autres, c'est oui. Quel est votre premier génétique actuellement dans l'ordre des sensations? Je n'en sais rien. Mais le premier génétique, je peux dire le plus imparfait, le premier génétique le plus imparfait dans l'analyse des sensations. Donc c'est le premier génétique par rapport aux sensations. Tandis que le jugement d'existence, c'est le premier génétique par rapport à tout l'ensemble de mes connaissances. Et donc c'est deux ordres différents. Et dans l'ordre de l'intelligence, le premier génétique, l'appréhension. Mais vous avez trois premiers génétiques différents qui ne sont pas au même niveau. C'est normal, puisque dès que je suis en présence d'un premier génétique, c'est le premier dans un ordre donné. Il y a l'ordre des sensations, l'ordre de toutes mes connaissances, l'ordre des connaissances intellectuelles. Donc il y a trois premiers génétiques. C'est pas contradictoire, tout simplement parce qu'il y a une diversité de connaissances. Enfin, il faut s'habituer en critique, hein, à être lucide. Je sais que c'est pas commode, hein, parce que il y a des claviers différents, trois claviers. L'ensemble de mes connaissances, les sensations, donc les connaissances sensibles, disons, et les connaissances intelligibles. Donc, vous savez, c'est normal qu'il y a trois premiers. Vous savez, c'est comme dans l'écriture. Vous avez quatre ou cinq fois qui dit au commencement, au commencement, au commencement, au commencement. Alors, si vous n'êtes pas un tout petit peu analogique, vous dites, mais c'est contradictoire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, le Verbe était. Deux commencements tout à fait différents. Vous retrouvez dans la sagesse, au commencement. C'est très curieux. Et dans l'épître, la première épître de Saint Jean, au commencement. Vous voyez, vous avez, je crois, quatre commencements, pour ne pas dire cinq. Et donc vous découvrez à l'intérieur de l'écriture cinq commencements. C'est pas étonnant. Vous avez le commencement de la création. Vous avez le commencement en Dieu. Vous avez le commencement par rapport à la rédemption. Vous avez le commencement dans l'immanence des créatures. Ça ne me gêne pas, il suffit tout simplement de comprendre que le premier, c'est le premier d'un ordre. Et il y a divers ordres. C'est là la pensée analogique, oui. Tandis que la pensée univoque, il n'y a qu'un seul ordre. Mais non, il n'y a pas qu'un seul ordre. Il y a le devenir et l'être. C'est déjà deux ordres. Et dans le devenir, il y en a plusieurs. Et dans l'être aussi. Bon, je n'insiste pas plus. Au niveau critique, vous n'abordez pas la question du temps et de l'espace. Où les situez-vous dans le comment de l'intelligence? Quelle différence y a-t-il entre lieu et espace? Donc, alors je précise tout de suite. C'est très vrai que quand je saisis le premier dans l'ordre de la connaissance intellectuelle, l'appréhension est au-delà du temps et de l'espace. Puisque c'est universel. Les catégories temps et espace sont des catégories de l'être en mouvement. Or, la connaissance intellectuelle, tout de suite, elle est au-delà. Mais, mon jugement d'existence, il est dans le temps et l'espace. Donc je pourrais dire que dès le jugement d'existence est impliqué le temps et l'espace, mais comme conditionnement. Je ne saisis pas l'être dans le temps. Et cependant, je le saisis dans le temps. Alors, je le saisis conditionné par le temps. Ceci est maintenant, dans ce lieu et ce temps. Mais le temps et le lieu ne sont pas contenus départ, mais ça ne m'intéresse pas. S'impliquer des points de vue, ça ne m'intéresse pas. Où est-ce que ça m'intéressera, le point de vue du temps et de l'espace? Ça m'intéressera lorsque je ferai la critique de la philosophie de la nature. On n'en est pas là. Mais là, oui. Je serais bien obligé de comprendre qu'est-ce que ça représente, ces deux catégories de temps et espace. Et alors, temps et lieu. Et alors, comprendre le passage du lieu à l'espace. L'espace a-t-il une extension plus grande que le lieu? Le lieu est-il plus lié à la finalité? Le lieu est une détermination de l'être mu, tandis que l'espace est un conditionnement. saisit ce qu'est l'être pour parler de la ratio N10. La ratio N10 se balade pas toute seule. Si vous verriez la ratio N10, vous verriez ce qu'elle est squelettique. Elle est toujours mourante, la ratio N10, ce qu'elle est squelettique. Oui. L'acuité, c'est parallèle. Acuité et ratio N10 sont parallèles. L'acuité, c'est par rapport à nos concepts univoques qui sont donnés dans les prédicables. Vous avez une acuité au niveau du genre, au niveau de la différence spécifique, au niveau de l'espèce, au niveau de la propriété, au niveau de l'accident. Donc les cinq prédicables, vous allez vous le savoir. Je vous demanderai ça à l'examen. Les cinq prédicables. Si je dis ça, vous allez l'apprendre par cœur. Ce sera les cinq prédicables. À la différence des 10 prédicaments. Les 10 prédicaments représentent les modes de l'être et donc les quidités. Il y a une quidité de la substance, une quidité de la qualité. Quidité. Tandis que les prédicables, c'est du côté de celui qui connaît. Et les prédicables, c'est le mode univoque de ma connaissance. Parallèlement à l'acuité, vous avez la ratio qui explique l'au-delà de l'acuité dans l'ordre du fondement objectif de mes réalités. Dès que vous êtes en face d'une connaissance analogique, vous avez la distinction de la ratio du mot douce. Analogue. Analogue au genre. Ratio et mot douce. Vous voyez, donne, faisons attention. Hein. Je mets ça, mais faites attention. Parallèlement au genre, vous avez la quidité générique. Parallèlement à la saisie de la différence spécifique et la propriété, vous avez la quidité spécifique. Animal. Rationnel. Où est-ce que ça se situe, animal? Quand vous dites j'ai le concept générique, là vous êtes au niveau des concepts. J'ai le concept générique. L'animal se situe dans la réalité. Il est en vous, l'animal. J'ai pas besoin de le chercher loin. Il est en vous. Et il revit très vite. Quand vous dormez, l'animal s'épanouit. Il se détend. Tandis que pendant la journée, vous l'avez dressé. Il va passer par la porte étroite. Alors les bosses assouplissent. L'animal respire. Il n'a jamais tellement bien respiré qu'en dormant, l'animal. Tandis que pendant la journée, vous faites attention de ne pas ronfler à cause de votre voisin. Pendant la nuit, vous en fichez pas mal. C'est l'animal qui ronfle. Oui. L'animal, il est en vous. Mais je précise cette quidité animale que quand je connais le genre animal dont le fondement est quantitatif et générique. Quand vous cessez rationnel, c'est en vous, c'est un concept dont le fondement est la quantité spécifique. Bon, alors, analogique. sens univoques. C'est fondamental. Vous pensez d'abord quantitativement. Douche, douche. École maternelle. Vous pensez quantitativement. Puis progressivement, vous entrez dans la connaissance philosophique. À ce moment-là, vous passez de la saisie quantitative des choses à la saisie profonde de la réalité. Et vous saisissez la ratio et dis. Ou de façon très confuse, très très confuse, enveloppée de nuages. Et puis vous précisez les maudits, les modes. Donc la même réalité. c'est que la bonté? Voyez, première question, qu'est-ce que c'est que la bonté? Et vous connaissez d'abord quantitativement ce que c'est que la bonté. Et puis progressivement, vous arrivez à avoir une connaissance métaphysique de la bonté. Vous avez une connaissance de la bonté descriptive, vos expériences. La bonté du cheval n'est pas la bonté de l'âne, n'est pas la bonté de l'homme. Et n'est pas la bonté de Dieu, si vous êtes croyant. Bon, descriptive. Puis vous avez une connaissance quantitative de la bonté. Alors qu'est-ce que c'est que la connaissance quantitative de la bonté? Bon, dès que je suis en présence d'une connaissance quantitative, je reviens au niveau la bonté du chien. Une certaine quantité de la bonté du chien. Un chien a des qualités pour être bon. Et donc la bonté se ramène quantitativement aux qualités. C'est vrai, c'est aux qualités. Aux habitus. Des qualités naturelles, des qualités acquises. Ce chien, quand il était petit, était un peu fou. Puis il est devenu très sage.
Parce qu'on veut définir tout.
concept d'être. Ben, le concept d'être, je l'ai pas au berceau. Au bout d'une année de métaphysique, j'ai un vague petit concept d'être. Donc ce concept d'être, il s'est engraissé progressivement. Vous voyez? Vous pouvez saisir à tout peu près où il est. Donc, il a fallu des quantités de jugements d'existence. Des quantités d'expérience pour arriver petit à petit à un concept d'être. Ce concept d'être qui se fonde sur la ratio mentis a été d'abord quantitatif. Vous avez commencé d'abord à saisir, je ne sais pas, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, le genre animal. Puisque l'animal existe, il est. Vous avez saisi l'homme, n'importe quoi, vous avez saisi une œuvre artistique, elle existe. La connaissance quantitative de l'être, c'est n'importe quoi. Toutes les réalités, elles sont les étangs. Dans le sens heideggerien, on dirait que ce sont les étangs. C'est les déterminations existentielles, ce sont les étangs. Alors les étangs, ils sont multiples. Les étangs, vous les saisissez tous quantitativement. Oui. Donc votre connaissance quantitative, elle existe. Mais vous n'êtes pas arrêté, parce que ça n'a aucun intérêt de s'arrêter sur la connaissance quantitative de l'être. Puisque l'être n'a pas de genre. Alors, puisque l'être n'a pas de genre, la connaissance quantitative de l'être, vous ne pouvez pas définir l'être. Donc la connaissance quantitative de l'être, elle n'a aucun intérêt. Vous avez une connaissance descriptive de l'être. Ça oui. Phénoménologique. Descriptive. Mais pas quantitative. Mais cependant, il y a une connaissance quantitative de l'être qui est présente dans toutes les connaissances que vous avez des étangs. Et puis à un moment donné, vous êtes dit, mais c'est intéressant de distinguer le devenir et l'être. Alors vous commencez. Encore une question sur la ratio mentis. Allez, on verra au plan critique que le concept le plus fondamental, c'est le concept d'être. C'est le premier et le dernier. C'est l'alpha et l'oméga de toute ma connaissance intellectuelle. Votre concept d'être, votre concept des transcendantaux, du bien, à l'équité, tout nommé, ainsi de suite, oui.
Quelle est la meilleure traduction ?
Raison d'être. Je crois que là, il vaut mieux carrément dire raison d'être, en mettant entre parenthèses ratio mentis. Parce que vous dites notion, ça se traduit de temps en temps par notion. Mais ça va pas très bien. Parce que la notion, c'est quelquefois au niveau du concept. Alors, c'est la notion objective du concept d'être. Voilà. Et là, voyez, vous explicitez. Ce qu'il faut, c'est comprendre que ratio mentis, c'est le fondement de tous vos concepts d'être. Oui. Concept d'être sans appréhension quantitative de l'être. Sans l'appréhension quantitative de l'être, l'être n'est pas dans un genre. Aristote répète ça tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas mettre l'être dans un genre. Mais j'appréhende les étangs par l'aspect générique et l'aspect spécifique. Les étangs. C'est très vrai que l'être ne peut pas être saisi quantitativement. Et cependant, toutes mes connaissances premières de l'être sont quantitatives. Les dix prédicaments. Les dix prédicaments vous donnent les connaissances quantitatives de l'être. Tohon, legetai, polakos. Hein, je traduis, puisque. des dix prédicaments. Ça, c'est sûr. Et vous devez passer par les dix prédicaments pour retrouver la ratio et 10. Oui.
L'intuition de l'être, les Samaritains,
oui.
C'est la connaissance qualitative de l'être.
Non, sûrement pas. Parce que ça, il n'accepterait pas ça. Je crois. Je dis je crois parce que, comme c'est pas très précis, au sens strict, il n'y a pas d'intuition de l'être. Mais je vois qu'on peut parler d'une intuition de l'être d'une certaine manière. En ce sens que, et si je reprends ce que Raïssa dit quand elle a eu l'intuition de l'être, c'est quand elle a saisi le petit chat qui existait. Et elle-même, il y a eu un dialogue face à face, Raïssa, petit Jean. Et alors, à ce moment-là, elle a eu cette espèce d'intuition de l'être, que l'être pouvait exister dans le chat, comme en elle. Donc, on voit ce que ça veut dire. Elle a saisi un rapport. Saisi intuitivement. Elle a saisi ce rapport. C'est pas l'être. Elle a saisi que l'être était au-delà de l'aspect quantitatif. C'est ça l'intuition de l'être. C'est saisir que l'être est au-delà du point de vue quantitatif. L'être n'est pas dans un genre. Pour pouvoir affirmer ça, il faut justement comprendre que l'être est au-dessus de l'aspect quantitatif. Il faut bien se dire que la plupart des philosophes demeurent dans l'aspect quantitatif et ne saisissent pas les rationes. Ils restent au niveau quantitatif, donc au niveau des prédicaments. Et je crois que quelqu'un comme Kant n'a jamais dépasser l'aspect quantitatif. Heidegger n'a jamais dépassé, je crois, l'aspect qualité de l'être. Donc, quantitatif aussi. C'est terrible, hein, ça. Je crois, quand on étudie un auteur, il faut toujours se poser la question. Jusqu'où a-t-il pénétré dans la réalité? Opposer les étangs et l'être, ça prouve qu'on n'a pas saisi la ratio et 10. Parce que dans la ratio et 10, les étangs sont des modes de l'être, donc ils ne s'opposent pas à l'être. Ils sont relatifs à l'être. Or, dire qu'il faut nier tous les étangs pour atteindre l'être, ça prouve qu'on imagine au-delà de tous les étangs. Alors que l'être n'est pas au-delà de tous les étangs. Il fait partie des étangs. Oui. Le beau. Oui. C'est, je crois, après les transcendantaux, la notion la plus analogique. Pour moi, personnellement, je ne mets pas le beau dans les transcendantaux. Certains le font, hein. Maritain le fait, le père Garrigou-Lagrange le fait, donc des gens très très bien. Mettre le beau parmi les transcendantaux. Donc, quand vous avez des thomistes qui disent « Oh, le thomiste met le beau dans, dans les transcendantaux », on se tait. C'est tout. On ne va pas se mettre à lui. les saints et transcendantaux. Vous les avez. Quoi? Ratio Boni. Véry. Unius. Aliquid. Quoi? Res.
Yeah.